Merci de nous regarder sur Djoliba TV News. Bienvenue dans votre émission Le QG de l'actu, votre émission hebdomadaire qui vous permet de mieux comprendre l'actualité de la semaine. Pour ce énième numéro de votre émission, nous avons deux thématiques inscrites à l'ordre du jour. La première thématique porte sur cette question, sur cette situation de la MINUSMA qui défraie aujourd'hui la chronique. Partira, partira pas. C'est donc la fameuse question que nous allons essayer de poser à nos différents invités pour pouvoir comprendre justement les contours de cette mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali qui a été créée, pour rappel, par résolution 2100, c'était le 25 avril 2013. Donc nous allons essayer de comprendre en tout cas les contours de la mission multidimensionnelle. Notre second sujet porte sur en tout cas l'état de nos maisons d'arrêt. Justement, nous avons vu cette semaine aussi une visite guidé par le patron de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Aguibou Bouaré, au niveau de la maison d'arrêt de Bamako. Nous allons justement essayer de comprendre effectivement quelles sont justement les difficultés auxquelles les maisons d'arrêt sont confrontées. Donc pour parler de ces sujets, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous M. Boubacar Paitao. Il est journaliste, M. Paitao. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, M. Traoré. Merci pour l'invitation. Au passage, je salue mon jeune frère et confrère Konaté.
Voilà. Merci à vous, M. Boubacar Paitao, d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous avez toujours répondu à l'appel de Djoliba. Chaque fois que le besoin est là, on vous appelle et vous nous faites ce plaisir. En tout cas, vous êtes chez vous. Vous
venez
nous voir quand vous voulez.
Le plaisir.
Notre second invité, vous l'aurez compris, il s'agit aussi du jeune, mais très brillant, journaliste, M. Moussa Konaté, journaliste effectivement à NRJ TV, NRJ FM, M. Konaté. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, M. Traoré, et merci d'avoir m'invité. Je me réjouis de cette invitation pour la énième fois et je salue au passage l'aîné, je le suis beaucoup, il n'a pas sa langue dans sa poche, je le salue. Ça sera un débat quand même où les internautes et les téléspectateurs auront leur part.
On espère, c'est ça aussi les clés du Liban. Nous avons dit, notre credo, c'est aussi libéraliser la parole, faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à la parole afin de jouer sa partition, toute sa partition à l'édification de la nation. Je disais tantôt, le premier sujet, c'est la question de l'aménagement. Nous savons, nous sommes à quelques semaines de la, en tout cas, de la date en tout cas butoir avant le renouvellement, sinon une éventuelle, en tout cas, prolongation, on va dire ainsi, de la mission des Nations Unies au Mali. Nous savons que cette mission arrive à terme en janvier, en juin prochain. Donc, pour justement parler de ça, effectivement, M. Paitao, nous avons vu cet ancien, en tout cas, beaucoup de réactions par rapport à la MINUSMA. Nous avons quand même l'impression, M. Paitao, que cette mission n'est pas, en tout cas, connue du peuple malien, apparemment.
Effectivement, M. Traoré, la mission n'est pas du tout connue des Maliens. Je comprends bien évidemment la réaction des uns et des autres par rapport à cette mission. Vous comprenez un peu le Malien de culture. Nous ne sommes pas des lecteurs, mais nous sommes de culture, de tradition orale. Donc beaucoup s'informent à travers et les différentes interventions des uns et des autres. Donc voilà pourquoi moi, vous verrez que même des responsables souvent politiques à un certain niveau ne maîtrisent pas tous les contours de cette mission. Donc cette réaction à chaque fois, à chaque fin de mandat, je crois que c'est devenu une habitude. Une habitude, on a l'impression qu'à chaque fois que la mission doit terminer son mandat, on a cette levée de bouclier contre la mission. On a tendance à résumer tout ce que nous subissons il y a une dizaine d'années, à résumer, à accuser en fait cette mission de tout ce qui nous arrive. Et c'est là où moi j'ai des difficultés à comprendre en fait, parce que cette mission, elle n'est pas venue d'elle-même. Nous rappelons qu'elle a été appelée, elle est au Mali sur invitation des autorités maliennes d'alors. Bon, moi je pense que s'il y a des problèmes d'approche, il y a des problèmes de compréhension, et ces problèmes peuvent être résolus de façon concertée avec non seulement les responsables de la mission et les responsables du Mali. Mais sincèrement, je me pose, pour moi, partira ou partira pas, tout compte fait, un jour viendra, la mission va partir. Parce que la mission, elle n'est pas là pour rester éternellement. Nous l'avons invité, en un moment donné, nous avons des difficultés. Nous l'avons invité à venir nous aider. Et comme auparavant, le Mali a participé à plusieurs missions de ce genre à travers le monde. Et c'est tout à fait normal que les autres nous volent au secours à chaque fois que nous avons besoin. Mais moi, je pense sincèrement qu'il faut faire la part des choses. Faire la part des choses, c'est que les Maliens, et nous avons des difficultés à trouver des éléments de réponse à nos propres problèmes. On a tout le temps tendance à rejeter sur les autres. Parce que si moi je suis les différentes interventions, que ce soit à la tribune des Nations Unies, que ce soit lors des différents échanges aux Nations Unies, on a l'impression que la mission et les marges de manœuvre de la mission sont réduites. Parce que même pour faire voler un avion, il faut l'autorisation du Mali. Pour se déplacer, il faut l'autorisation des Maliens. Pour ceci, pour cela. Moi, je pense que tout cela, toute cette manipulation, c'est parce que tout simplement, c'est autour des questions de droits de l'homme.
D'accord. On va en parler tout à l'heure, M. Paytaou. Juste, en tout cas, essayer de voir un peu le contour de la chose. Hein. Oui, M. Konaté, Bocar Paytaou parlait tantôt. Hein, il a quand même parlé de beaucoup d'aspects sur l'aménagement qui semble être incompris par le peuple malien. Il parlait justement de faire la part des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette mission, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, semble incomprise par une bonne partie du peuple malien?
Moi, je dirais que c'est un peu mitigé. Elle est comprise comme elle n'est pas comprise. Dès le départ, il n'y avait pas un tel acharnement contre l'aménagement. L'aménagement a été venu d'abord, c'est les forces africaines avant que ce soit l'aménagement, comme il a si bien.
C'était d'abord l'aménagement, l'aménagement de soutien au Mali.
Au Mali, ensuite l'aménagement en 2013, comme il a si bien, une décennie maintenant, 2013-2023. Mais au départ, on ne constatait pas cela. Donc l'aménagement faisait son opération. Mais qu'est-ce qui se passe? De 2015 à nos jours, nous constatons que cet aménagement ne joue pas pleinement son rôle, surtout à la veille du renouvellement de son mandat. Voilà, les citoyens aussi, ils observent. Ils observent. Donc, il constate les attaques ici pour un peu légitimer le maintien de cette force onisienne. Okay. Pourquoi les attaques ne se passent pas autant si toutes les attaques coordonnées et simultanées ne se passent pas? Par exemple, quand on prend par exemple le mois d'avril jusqu'au mois de mai, je pense que Paytaou ne dira pas le contraire. On constate quand même que ces attaques-là, un peu partout, c'est qui restent un peu les gens perplexes ou autres. Et puis, ces attaques qui se passent, les terroristes, souvent, nous voyons. Ils utilisent souvent des engins aussi des dernières générations avec ces attaques-là. Tout récemment, il faut voir l'attaque de Sévaré, c'était tellement bien planifié et perpétré. Et là-bas aussi, nous avons vu aussi à travers certaines déclarations que c'était un peu flou. Par exemple, à travers les médias internationaux, que l'aménagement a apporté main forte. Par exemple, quand on prend RFI, cher Daniel, qui est un compatriote d'ailleurs, parce qu'il a la nationalité malienne, donc maintenant avait dit, je pense bien même s'il a eu une information. Dans le doute, mais ça a une connotation, ça peut pousser les gens à apporter une sorte de légitimité en ce qui concerne l'intervention de l'aménagement. Nous savons que les autorités de la transition acquises les forces françaises depuis fort longtemps, et elles disent qu'elle a des preuves palpables contre ces autorités françaises. Quand on prend par exemple l'administration de l'aménagement, on voit que c'est tenu par les responsables français. Et jusqu'à ce que c'est ce flou qui plane sur l'aménagement. Les gens n'ont plus cette crédibilité vis-à-vis de l'aménagement, puisque ils doutaient de la présence française. Jusqu'à ce que les gens se sont rendus compte que le problème du Mali, c'est la force Barkhane, c'est la France.
Oui, le problème est que, M. Konaté, nous avons quand même l'impression, comme je suis bien dit, que la mission n'est pas du tout comprise, parce qu'il n'y a pas eu de communication autour de cela. Nous parlons d'une mission multidimensionnelle intégrée aux Nations Unies pour la stabilisation au Mali. On parle de stabilisation. Est-ce que le rôle de l'amélissement, c'est de prendre part au combat? Je pense que cela aussi doit être dit au peuple malien.
Ça a été dit et compris. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit que les villages entiers sont rasés. Souvent, l'amélissement n'est même pas loin. Les gens sont attaqués. L'amélissement, c'est une force d'interposition.
Oui.
Voilà, pour protéger les civils. C'est la raison pour laquelle les citoyens n'arrivent pas à comprendre.
Okay.
Certes, il ne faudrait pas qu'elle intervienne parce qu'elle n'a pas été mandatée en ce sens. Mm-hmm. Mais si on vient, on rase tout un village.
Okay.
On essaie, ça dit quoi, de tuer les gens comme il se faut. Comme l'amélissement parle de droits de l'homme, tout à fait. Mais on a vu voilà, des tueries de tout genre. Mm-hmm. De tout genre. Mm-hmm. Voilà, et puis ça continue. Et jusqu'à ce que les gens se posent la question. Mm-hmm. Et à un moment donné, c'est l'instinct humain. Mm-hmm. C'est l'instinct humain qui pousse à l'être humain de pouvoir se sécuriser. Donc, mm-hmm. les raisons pour laquelle les populations, cette exacerbation, on le voit un peu partout contre les forces onusiennes. Les gens se posent la question, est-ce que ça vaut le coup même que cette force-là soit au Mali? Si sa mission principale, c'est l'interposition entre, par exemple, le gouvernement malien et les groupes armés, mmh. et les groupes armés, les ex-rebelles, mmh. Mmh. ou soit entre les citoyens et les malfaiteurs,
okay.
nous voyons que, quelque part, cette mission faillit.
D'accord.
Parce qu'on voit des tueries de tout genre. Même en 2022, on a vu, par exemple, à Badiangara, notamment au niveau de Bankas, il y a eu à Djalassagou. On a vu que ces djihadistes sont venus pas mal. Mais si on voit que le camp de l'aménagement est attaqué, on voit que l'aménagement riposte. Il riposte. Et quand on dit, par exemple, elle sort, elle s'explique à travers les communiqués que nous avons pour préserver notre position et préserver la vie aussi voilà, de nos hommes. Donc, elle intervient.
Okay. Mais est-ce qu'en intervenant, les hommes de l'aménagement ne sont pas en position de légitime défense, comme on peut bien le dire?
Légitime défense, bien sûr, parce que leur vie est attentée. Okay. Attentée. Mais quand on prend, par exemple, les citoyens qui sont attaqués, si l'aménagement faisait cela, je suis sûr et certain qu'il n'y aura pas cette exagération partout.
D'accord.
Même si il arrive à l'instant que certains okay. citoyens ne veulent pas l'air du pas.
Oui, voilà. Oui, M. Paytao, quand même, il y a quand même beaucoup de choses ici qu'il faut qu'on essaie de comprendre. Mais c'est vrai, parlant de la force Barkhane d'abord, nous savons très bien qu'aux premières heures, hein, des difficultés auxquelles le pays était confronté après le renversement du pouvoir en 2012, le président Diongunda, le président intérimaire avait sollicité la France à travers François Hollande pour que les forces françaises puissent intervenir. Ils ont été accueillis, hein, en tout cas, avec beaucoup, beaucoup de ferveur. Mais après, on a vu comment, en tout cas, la situation, en tout cas, a volé en éclat. Alors, c'est la même chose que l'aménagement. Effectivement, quand elle venait, les gens applaudissaient pour cette force-là. Aujourd'hui, il y a un désamour entre le peuple et les forces onusiennes. Beaucoup de gens pensent que, comme vous l'avez rappelé tantôt, nous sommes quasiment hein, à échéance en tout cas, du mandat de l'aménagement qui arrive en juin 2023, le 29 juin prochain, si je ne m'abuse. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui que chaque fois, à la veille, en tout cas, de la fin du mandat de l'aménagement, ce sont des attaques répétitives, n'est-ce pas, auxquelles on assiste. Et souvent même, certains reprochent à l'aménagement aux forces onusiennes qui sont présentes sur le sol malien que les attaques se passent. Et les forces onusiennes sont à côté, elles n'interviennent pas. Comment expliquez-vous cet état de fait, M. Paytao?
Bon, et cet état de fait, bon, comme bon nombre de Maliens qui pensent que l'aménagement justifie un peu sa présence par ces genres d'événements, comme les attaques. Maintenant, moi, je veux aller au-delà de cela, parce que, comme Konaté l'a dit, je crois que l'aménagement est plus éloquent pour dire ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait par rapport à l'attaque de Sévaré. Il a parlé d'un journaliste qui rapportait souvent certaines informations. Moi, j'ai vu le communiqué de l'aménagement. L'aménagement a dit clairement qu'ils n'ont pas pris part au combat, mais qu'ils ont donc moi je pense que c'est extrêmement important. Il faut mettre les choses dans leur contexte.
D'accord.
Si un journaliste a dit ce qu'il pense, bon, moi je pense que c'est son problème, mais le communiqué de l'aménagement, pour moi de mon point de vue, cela fait foi.
Okay.
Bon, maintenant il a parlé de les villages sont décimés, les villages sont incendiés sans que l'aménagement ne lève le petit doigt. Ça, c'est important, il faut le dire. Les Maliens ont participé à ce genre de missions à travers le monde. Tout est question de mandat. L'aménagement a un mandat, c'est très clair. Je crois que le principal défi, c'est chercher comment donner un mandat robuste. Je crois que c'était le principal souci de tous les Maliens, tous les responsables maliens, particulièrement les ministères, les ministres des Affaires étrangères, les différents ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés. Okay. Et à chaque fois, à chaque occasion, ils le rappellent. Il faut donner à l'AMINUSMA un mandat robuste. Et ce désamour, moi, je l'explique par le simple fait, il y a une différence de lecture entre ce que nous nous voyons dans cette configuration sécuritaire et ce que l'Occident, bon, je ne dirais pas l'Occident, ce que la communauté internationale à travers l'AMINUSMA voit. Parce que tout simplement, nous, nous avons deux problèmes. Okay. Nous avons un problème avec certaines entités qui réclament l'indépendance d'une partie de notre territoire. Okay. Et le deuxième problème, nous avons une horde de terroristes venus de nulle part, des quatre coins du monde, qui s'attaquent à nos populations. Nous avons ces deux populations. Nous avons ces deux problèmes. Okay. Maintenant, pour nous les Maliens, ce qui urge, c'est d'abord chercher à régler le compte de ceux-là qui réclament l'indépendance. Okay. Donc pour nous, ceux qui réclament l'indépendance ne sont pas du tout fréquentables et ils ne sont pas du tout bons. Pour nous, les Maliens. Mais pour la communauté internationale, ceux-ci sont fréquentables. Donc voilà le problème. Donc cette différence de lecture est entre les Maliens et la communauté internationale à travers l'AMINUSMA, c'est ça qui pose tout ce problème depuis le départ de la mission. Parce qu'en fait, les gens, les Maliens avaient compris quoi ? Avec l'intervention française, suivie du déploiement de l'AMINUSMA, de tout ce qui s'ensuit, peut-être dans les six mois, dans un an, deux ans, on va nettoyer tout ça, même les séparatistes. Mais avec les différentes déclarations, les Maliens ont commencé à comprendre que non, mais peut-être que nous n'avons pas la même vision que ceci. Et moi, je pense que ce désamour est parti de là-bas.
Okay. Mais que répondez-vous à ces personnes-là qui pensent qu'effectivement, à la veille de la fin du mandat de l'AMINUSMA, ce sont des attaques répétitives, M. Peitau, auprès
bon, de... Moi je dirais...
Les gens pensent que l'AMINUSMA serait derrière ces attaques-là.
Bon, non, mais moi, je ne saurais le dire. Pour moi, ça peut être une simple coïncidence. Comme les attaques ont toujours... nous avons toujours constaté les attaques... Hein. Ce n'était pas seulement à la veille de la fin du mandat. Donc, que cela soit très clair. Et pendant toute l'année, okay. et nous subissons des attaques à tort et à travers. Donc, maintenant, cela est extrêmement important de le rappeler. Donc, moi, de mon point de vue, il faut faire la part des choses. Faire la part des choses, c'est nos forces de défense et de sécurité qui doivent accepter de descendre au charbon. Okay. Sécuriser les Maliens. La MINUSMA a sa mission... De stabiliser et voilà donc les acquis que nos forces de défense les résultats obtenus par nos forces de défense et de sécurité à travers leur engagement sur le terrain, maintenant l'AMINUSMA viendra maintenant en appui pour stabiliser. Okay. C'est comme ça que moi je vois en fait les choses.
D'accord.
Mais nous en tant que Maliens, qu'est-ce que nous faisons au quotidien pour éviter ces attaques? Okay. Maintenant, quand je dis faire la part des choses, aujourd'hui, nous avons connu des missions de l'ONU à travers le monde, c'est pas au Mali seulement que ça a commencé. Et partout, il y a ce problème. Parce que les gens voient souvent en ces soldats de casque bleu comme une force d'occupation. Parce qu'ils viennent souvent, ils n'ont rien à voir avec nous. Souvent, on a des difficultés de compréhension, même pour des notions les plus élémentaires. Okay. Donc, maintenant, moi, je pense que, au lieu de rejeter chaque fois la responsabilité sur l'AMINUSMA, mais pourtant, ce sont toujours nos autorités qui disent, à qui veut l'entendre, que nous avons besoin de l'AMINUSMA. L'AMINUSMA, sa présence, elle est importante sur nos sols, parce qu'elle fait ceci, elle fait cela.
D'accord.
Maintenant, moi, je pense que ceux qui ont ceux qui ont organisé ces différentes manifestations, mais certains parmi eux font partie des organes de la transition.
Et l'organe législatif de la transition, moi je pense qu'à aucun moment, en tout cas moi je n'ai pas appris, qu'ils ont pris des résolutions pour demander le départ de cette mission. Un. De deux, je n'ai pas appris non plus qu'ils ont convoqué ou encore invité un ministre favorable au maintien de cette mission pour qu'il s'explique devant le peuple malien. D'accord. Quels sont ses arguments ou encore quelles sont ses motivations, okay, pour qu'il dise que cette force, la présence de cette force, elle est nécessaire. D'accord. Moi, je pense qu'il faut amener le débat à un autre niveau.
Okay.
Maintenant, si on fait comme cela, parce que même aujourd'hui, il y a des Maliens qui sont dans les missions à l'extérieur. Mais si on ne veut pas de cette force, mais bien avant, c'est très normal que la force soit consultée à la majorité de Français, parce que jusqu'à 2-3 mois, la France était notre porte-plume. C'est la France qui parlait au nom du Mali. Et cette mission est venue dans les bagages de la France. C'est extrêmement important. Okay. Il ne faut pas l'oublier.
C'est important.
Maintenant, moi, je pense que si nous ne voulons pas de cette force-là, que nos autorités... Mais nous avons crié pendant des années que nous ne voulons pas la force, la présence française au Mali. Mais le jour où les autorités ont décidé, la France est partie. Maintenant, moi, je pense que c'est très simple. Okay. Si les autorités décident demain que dire à la MINUSMA, vraiment, nous, on est capable, on peut sécuriser les Maliens, on peut stabiliser notre pays, on a suffisamment de moyens, nous avons suffisamment de ressources pour sécuriser nos compatriotes, pour sécuriser notre population, mais ils peuvent demander à la force, à la MINUSMA de partir gentiment,
d'accord,
comme elle est venue.
C'est bien, c'est bien noté, M. Paytao. Alors, M. Konaté, hein,
oui,
cette question de la MINUSMA, je disais au début de mes propos que ça défraie la chronique, ça, c'est une certitude. Donc, il y a quand même, les gens ont aussi l'impression qu'il y a toute une campagne, hein, d'instrumentalisation autour de cette question de la MINUSMA. Certains se laissent instrumentaliser par certaines autorités, même de la transition, pour en tout cas faire manger leur piment dans la bouche de certains, comme on le dit en d'autres. Tout à l'heure, il parlait de certains membres du CNT, hein, voilà, le Conseil national de transition, qui pourtant peuvent interpeller justement, hein, un ministre, un membre du gouvernement par rapport à cette question de la MINUSMA, demander tout simplement que les gens soient clarifiés, en tout cas par rapport à sa mission. Sauf qu'ils vont sur d'autres terrains pour se faire entendre. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de mettre la forme à tout ça?
Oui, il y a la forme, mais aussi sortir, manifester, ça fait partie du système de gouvernance que le peuple peut s'exprimer à travers aussi les manifestations pour montrer et désapprouver ce qui se passe dans le pays. Alors, ça peut venir aussi, l'initiative peut venir aussi de ceux-là qui gouvernent. Nous avons vu le cas avant que la force française ne parte. Nous avons vu qu'il y avait des rapports de force. Mais à travers ces manifestations, la France s'est rendue compte qu'elle est en train de partir. Et les autorités de la transition, le monde, le système de gouvernance et des rapports de force. Au départ, les autorités de la transition ne pouvaient pas s'élever. Il a si bien dit, la France était notre porte-plume. La France aussi, à travers cela, était en train aussi de parler au nom du Mali. Et les autorités de la transition d'avant ne pouvaient pas s'élever et dire que voilà, nous n'avons plus besoin de la France et d'aller. Mais on sait que dans le système de gouvernance, l'apport du peuple, ça compte. Parce que ces gouvernants sont là pour le peuple. Et si le peuple s'élève et s'explique et donne des raisons qui prouvent que réellement on ne veut pas cette force, ça va légitimer la décision des autorités de la transition. Nous avons vu toutes les manifestations et toutes ces sorties qui s'est passées et qui a légitimé et qui a donné la force à ces autorités de la transition de faire face à ceci. Parce qu'au départ, juste après le deuxième coup d'État que Dokenza appelle la rectification, nous savons que la France était en bon terme avec les autorités de la transition. Elle a même salué, par exemple, que l'administration, par exemple, de Banda, on sait qu'elle a pu faire en quelques mois. L'administration de feu Ibrahim Bouaka Keïta n'a pas pu faire. Mais à travers le deuxième coup d'État, nous avons vu que le divorce était là. C'était des clashs directs. Et nous savons que ça n'allait plus. Donc il fallait que certains Maliens se mobilisent autour de la cause pour montrer, au vu de la communauté, de l'opinion nationale, okay, et internationale, que ce qui se passe chez nous, la France n'a plus sa raison d'être chez nous, surtout la force Barkhane. Les preuves ont été apportées que la France est en train d'appuyer les terroristes, elle est en train de donner les renseignements à ces gens-là. Si nous avions, ça vient de nos autorités de la transition, veulent par exemple aller donner appui, on dit, ben, le moment n'est pas propice, nous sommes en train de voir tel ou tel problème. Ça a trouvé qu'en ce moment, ça dit quoi? Le peuple est en train d'être massacré au vu et au su de tout le monde. Et ces gens-là, ce qui se passe, ce n'est pas de forêt sur le sable. Mais à travers les drones hautes, là, on peut neutraliser ces gens-là. Ils viennent, ils détruisent nos villages, ils s'en vont comme si rien n'était. Okay. Donc, de fil en aiguille, les Maliens se sont serrés la main, se sont donné la main, et serrés les coudes et essayé de faire face. Nous avons vu que cette force française est partie, Takuba est partie, G5 Sahel n'est plus. Donc, la force onusienne, on soupçonne. Au D'accord. départ, okay. il y a ce soupçon.
D'accord, il y a ce soupçon-là. Aujourd'hui, nous avons vu avant-hier, vendredi, qu'il y a eu quand même une grande manifestation à Bamako, une manifestation qui a été justement initiée par le mouvement Irogolo Debout sur le Rempart, qui quand même est dans sa lutte depuis belle lurette par rapport à cette situation de l'aménagement. Nous avons vu aussi hier samedi, qu'il y a eu des en tout cas, on est à Gao déjà.
Aujourd'hui, samedi.
Oui, à Gao déjà, nous sommes dimanche, monsieur.
C'est vrai. Alors,
voilà, donc disons que la société civile, en tout cas une bonne partie de la population de Gao aussi, en tout cas demandait le maintien de l'aménagement. Aujourd'hui, nous avons quand même l'impression que nous sommes dans une société où nous sommes divisés à cause d'une situation qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour trouver le juste équilibre?
Voilà, dans ce genre de situation, c'est très difficile de trouver le juste milieu. C'est des rapports de force, chacun à ses raisons. Je vais développer. Alors, en ce qui concerne la manifestation qui a été initiée par les forces de l'ordre, parce qu'en prélude de ça, je vis, mais voilà, là, on voit que Yerolo fait partie, M5 fait partie, il y a pas mal de forces qui se sont réunies pour pouvoir mener ce meeting qui s'est tenu le vendredi. Comme vous l'avez si bien dit, nous avons vu cela, ils ont expliqué les raisons, nous n'allons pas refaire cela. Mais en ce qui concerne, vous avez parlé de l'autre cas, notamment à Gao, qui ont manifesté. Nous comprenons cela parce que depuis un bon moment, l'État était absent dans ces différentes zones. C'est l'aménagement qui apporte, par exemple, les œuvres sociales en ce qui concerne la santé, l'éducation, les routes, les petites activités génératrices de revenus. Nous comprenons cela. Pendant tout ce temps, c'est l'aménagement qui œuvre et c'est bien normal que ces populations s'élèvent pour dire que nous ne voulons pas le départ de l'aménagement. Parce que l'État était absent pendant tout ce temps-là. Et si l'aménagement complète ce vide, essayer de venir compenser ce vide-là, ça se comprend. Mais comme Paetao l'a si bien dit dans ses propos préliminaires, tôt ou tard, l'aménagement va aller. Nous savons que même si c'est ici qui demande le départ de l'aménagement, ça ne va pas se faire en un clic de doigts, mais c'est de façon progressive. Nous savons comment cette force onusienne se retire du pays. Ça ne va pas être du tic au tac. Et vous avez évoqué aussi cela. Je vais souligner un point. Par exemple, le gouvernement a suspendu, par exemple, l'opération de toutes les ONG françaises, en tout cas qui reçoivent le financement venant de la France. Nous avons vu que l'État, à l'époque, avait dit qu'il va essayer de faire l'état d'idée pour voir ce qui n'a né. Mais jusqu'à présent, nous n'avons vu rien. L'État n'a qu'à faire extrêmement attention en ce qui concerne le départ de l'aménagement. Même si certains s'élèvent tout de suite, oui, il faut le départ de l'aménagement, il faut bien diagnostiquer. Mais souvent, voilà, quand on voit ce qu'ils sont, on est en colère, on s'élève pour demander certains. Même si ce départ est légitimé par certains Maliens, il faudrait que si l'État aimerait prendre des décisions, il ne faudrait pas que ça soit comme le cas des ONG, voilà, prendre des décisions. D'accord. Et à la suite, okay, il n'y a pas des actions, ça peut mettre certains, ça dit quoi, personne dans cette situation catastrophique. D'accord. Que Dieu n'en préserve.
Amen. Oui, M. Paetao, il parlait tantôt de la question des ONG françaises qui avaient été sommées de quitter, en tout cas, les structures qui sont financées par ces ONG, de couper le pont. Mm-hmm. Ça a été fait. L'État avait quand même dit à un moment donné qu'ils allaient prendre des mesures compensatoires, si on peut dire ainsi. Mm-hmm. Jusque-là, on n'a quand même rien vu. Mm-hmm. Aujourd'hui, avec cette demande de départ de l'aménagement, si demain, éventuellement, l'aménagement vient à partir, est-ce que réellement les conditions sont réunies pour pouvoir en tout cas compenser le vide que l'aménagement aussi va laisser?
Et je crois, à entendre mon cher cadet, je crois qu'il est en train de dédouaner un peu nos forces armées de sécurité. Parce que c'est le rôle régalien de l'État malien, c'est de sécuriser les Maliens. C'est le rôle régalien de l'État. Maintenant, est-ce que les conditions, toutes les conditions sont réunies, moi je dirais non. Je dirais non. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'il y a beaucoup de localités aujourd'hui, et nous n'aimons pas le dire, mais c'est ça la réalité, il y a beaucoup de localités qui échappent complètement au contrôle de l'État. Et pourtant, il y a des Maliens qui y vivent là-bas. Donc maintenant, aujourd'hui, parce que quelques individus veulent juste se faire voir, parce qu'il a dit qu'ils ont le droit de manifester. Moi, je ne conteste pas cela. Mais j'aurais voulu les voir sur un autre terrain parce qu'ils en ont la possibilité de le faire. Ils sont partie prenante d'un organe de la transition, de surcroît l'organe législatif de la transition. Ils peuvent, par des motions, demander, se mettre ensemble, un groupe de conseillers au CNT qui demande officiellement le départ de la MINUSMA. Okay. Soit demander un débat, à faire un débat public au CNT parce qu'ils sont payés pour ça. Nous n'avons pas vu. Mais ils sont des spécialistes en organisation de meetings en ceci ou en cela. Et maintenant, ils sont plus actifs sur d'autres terrains alors qu'il y a un espace officiel réservé pour eux. Moi, je pense que j'aurais voulu les voir sur ce terrain-là. Qu'on les empêche de le faire ou pas, je crois que c'est aux Maliens d'en juger. Mais si cela n'est pas fait, moi je pense que le départ de la MINUSMA doit être réfléchi. Réfléchi, et ça ne doit pas être comme pour les ONG. Parce que c'est pour les ONG, le gouvernement a pris la décision de suspendre les activités de toutes les ONG qui reçoivent les fonds, français. C'est après d'avoir suspendu ces ONG que le ministre de l'administration territoriale a demandé aux différents administrateurs civils de faire l'état des lieux, de recenser les ONG actives dans leur zone, les ONG qui opèrent dans leur zone.
Et qui sont financées par,
par la France. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas d'abord calculé et mesuré l'impact socio-économique de cette décision de suspension des ONG. Ils ne savent pas exactement quelle est cette décision va créer combien de chômeurs, va menacer combien d'emplois, etc., etc. Moi, je pense que c'est une décision. Ils devaient d'abord réfléchir au préalable avant de prendre la décision.
Donc, ils devraient faire un travail en amont.
En amont, avant de faire cela. Maintenant, là, le risque de faire ce travail en aval, le risque, c'est quoi? Nous connaissons le cadre malien. Maintenant, lors de cette enquête, lors de cette évaluation, disons, mais nous savons que le résultat est indicesse. Nous le savons. Parce que nous savons qu'est-ce qu'ils vont mettre là-dedans. Parce que à partir du moment où ils ont l'information que si jamais à l'issue de tout ça, à l'issue de cette enquête-là, à l'issue de cette évaluation, maintenant ceux qui... c'est-à-dire que le mandat de... l'emploi de ceux-là qui seront menacés, seront recommencés ou indemnisés, nous savons qu'ils vont mettre n'importe quoi là-dedans et ils vont mettre n'importe qui là-dedans. Mais moi, je ne veux pas que ça soit la même chose pour l'aménagement. Et surtout que nous avons un accord avec les ex-rebelles, si on peut le dire. Et cet accord, le gouvernement dit à qui veut l'entendre qu'il est, partie prenante de cet accord. Donc, si le gouvernement est partie prenante de cet accord, mais moi, je ne vois pas. Alors que l'aménagement fait partie des garants de cet accord. Moi, je vois très mal qu'aujourd'hui, mais qu'on demande à la MINUSMA de partir. Il a dit à Gao, à Tombouctou, les jeunes sont en train de manifester pour le maintien de la MINUSMA. Ça se comprend. Parce que maintenant, l'alternative, et si aujourd'hui la MINUSMA est arrivée à partir, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que le gouvernement a analysé tout ça? Moi, je trouve que non, ce travail n'a pas été fait. Okay. Et moi, je pense qu'il faut faire ce travail-là. Ça va menacer combien d'emplois?
Quel est l'impact socio-économique? Il faut analyser tout ça. Quel est l'impact sécuritaire? Est-ce qu'aujourd'hui, les zones tenues par l'AMUNISMA, est-ce que nous sommes capables de tenir les zones, c'est-à-dire que de remplacer les soldats, les éléments de l'AMUNISMA au cas où l'AMUNISMA venait à partir?
D'accord,
moi, je pense que il faut ce travail de fond d'abord.
Ouais, vous parlez tantôt, vous avez fait allusion aussi à l'accord de paix issu du processus d'Alger. Nous savons très bien que l'AMUNISMA joue un grand rôle, sinon on peut dire aussi, en tout cas, l'une des priorités justement de la présence de l'AMUNISMA, c'est certainement, en tout cas, sauvegarder cet accord-là qui, en tout cas, est très précieux. Mmh. Alors, si aujourd'hui l'AMUNISMA venait à partir, qu'est-ce que l'accord va devenir, cet accord d'Alger?
Mais c'est fini pour l'accord, ça veut dire que c'est une déclaration de guerre. Aujourd'hui, il n'y a plus de munissement, il n'y a plus d'accord. Parce qu'il n'y a plus de garant. La munissement, elle est garant de l'accord, de l'exécution de l'accord. Et c'est ce que j'ai dit, tout ce qui dérange ici, là, c'est le fait que l'AMUNISMA s'intéresse aux questions de droits de l'homme. C'est ça. C'est comme c'est un peu le péché de l'AMUNISMA.
Oui, mais monsieur.
Mais moi, je pense que, sincèrement.
Il faut qu'on soit quand même très clair. Nous savons très bien que les résultats de l'AMUNISMA, en tout cas, sont quand même très insuffisants par rapport à ce qui a été demandé. Nous savons très bien que cette structure a quand même du mal à s'adapter aux réalités du terrain. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que réellement l'AMUNISMA puisse jouer pleinement son rôle et tout son rôle dans la stabilisation même du pays?
Mais M. Traoré, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est qu'il faut changer de mandat, comme nous l'avons tout le temps demandé.
Mais en 2022 déjà, M. Paita, oui, pendant la leçon 26-40,
le mandat
a été placé sous le chapitre 7, je pense que ce chapitre 7
donnait en tout cas l'AMUNISMA
un mandat en tout cas plus robuste, je ne m'abuse.
Oui, mais cela n'a pas été le cas. Nous voyons, ils ont beaucoup plus privilégié les questions des droits de l'homme. Alors que ça, en fait, ce n'est pas notre problème. Mais nous, notre problème, c'est comment sécuriser les Maliens. Okay. Et comment donner un mandat à l'AMUNISMA de façon à ce qu'elle puisse au moins combattre aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. C'est ça, nous, notre problème. C'est ça, notre souci principal. Mais tant que cela n'a pas été fait, on va continuer éternellement à accuser l'AMUNISMA et elle peut, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a.
Très bien. Oui, rapidement, M. Paito, il y a comme un fait qui s'est passé la semaine sur le passé, hein, c'est par rapport au cas allemand. L'Allemagne qui annonce en tout cas son retrait de l'AMUNISMA. Nous avons appris dans les coulisses qu'il y a d'autres pays qui seraient dans le circuit pour se retirer de l'AMUNISMA. Est-ce que c'est la mort finalement annoncée de l'AMUNISMA qui s'annonce comme ça?
Bon, pas la mort, parce que avec les derniers événements, je crois que tous les pays qui, en tout cas, ont des intérêts au Mali commencent à se positionner par rapport à cette question malienne. Elle est très importante. Et surtout un pays comme l'Allemagne, qui, pendant des années, c'est exactement la richesse de notre sous-sol, même plus que la France qui nous a colonisés. Donc moi, je pense que l'Allemagne et quitte l'AMUNISMA parce qu'elle sait que très bientôt, avec les événements en cours, l'avenir de l'AMUNISMA est compromis. Maintenant, elle quitte. Maintenant, elle va, voilà, donc dans un cadre bilatéral, travailler avec le Mali. Et je crois que tous les pays qui veulent quitter l'AMUNISMA veulent en tout cas se positionner par rapport à cette question du Sahel.
D'accord.
Donc moi, j'y trouve tout à fait normal.
Okay.
Parce qu'on a tout le temps dit, c'est nous qui avons de difficultés à comprendre cela,
d'accord,
que les pays n'ont pas d'amis, mais les pays ont des intérêts.
Des intérêts, oui, voilà. Rapidement. Est-ce qu'avec le retrait de l'Allemagne annoncé de l'AMUNISMA, d'autres pays qui, en tout cas, sont en coulisses, peut-on parler de la mort, en tout cas, comme on aime le dire ainsi dans ces derniers temps? Est-ce que l'AMUNISMA serait mort de sa belle mort?
Absolument, parce que même au plus haut sommet de la grande instance du monde qui est les Nations Unies, avec à sa tête Antonio Guterres, a reconnu la montée en puissance de l'armée malienne. Et nous constatons que quand l'armée malienne monte en puissance et qu'elle est en train de sécuriser les lieux, est-ce que la MINUSMA a sa raison d'être? Donc il faudrait préparer le futur, comme mon très cher confrère l'a si bien dit. Les pays n'ont que des intérêts et puis c'est les rapports de force. Donc par rapport à ça, donc, l'Allemagne va essayer aussi de pouvoir se positionner. Comme les autorités de la transition l'ont si bien dit, le Mali a édicté trois principes, à savoir d'abord, il faut sauvegarder d'abord la souveraineté du Mali. Quiconque aimerait, c'est-à-dire entreprendre des rapports avec le Mali, doit respecter la souveraineté du Mali. Et ensuite aussi, les choix stratégiques et le choix des partenaires du Mali, respecter cela et l'intérêt supérieur du peuple malien. Donc cela dénote que si un pays aimerait entreprendre par exemple les rapports avec le Mali, ou renouer le rapport avec le Mali, vient directement à travers ces rapports bilatéraux pour pouvoir, traiter ces questions d'intérêt avec le Mali. L'Allemagne rentre dans ce cadre et la fin de la MINUSMA s'annonce parce que nous voyons que le Mali est en train de se doter des matériels des dernières générations, chose qui était interdite auparavant. Ce qui faisait que le Mali doutait de ces choses-là. Nous achetons ces équipements souvent sont bloqués au niveau du port d'Abidjan ou bien soit de Conakry, ou bien soit l'avion est bloqué au niveau de l'Espagne ou autre là. Donc, mais nous voyons avec ces derniers pays auxquels le Mali s'est beaucoup intensifié, à savoir la Russie, l'Iran, que ce soit la Chine ou la Turquie, nous sommes en train de recevoir pas mal de matériel et l'armée est en train de monter en puissance et nous sommes en train de recruter avec la militarisation aussi de la police qui est estimée par exemple à 20 000 hommes et la protection civile, je pense que nous sommes en train de ratisser. Et nous avons constaté aussi sur le terrain, les ministres autodéfense aussi en train de se rallier. Par exemple, tout récemment, quand on prend par exemple la milice autodéfense Dogon, Eupel, voilà, on scellé une alliance pour pouvoir mener des opérations. Ce qui montre que si on ne se met pas ensemble, l'armée ne lâchera personne. Ce qui montre un peu, c'est des signaux en quand même, qui sont en train de nous montrer que nous tendons vers la fin de cette crise malienne, même si elle n'est pas finie, mais quand même, c'est des signes qui sont en train de nous montrer qu'il faut se positionner pour pouvoir, pour ne pas se faire avoir.
D'accord. Oui, nous allons croire que ce serait très bientôt la fin de cette crise qui n'a que trop duré. C'est ce que nous conduit, mesdames et messieurs, sans forme de transition, au second thème de ce débat, hein, consacré à la situation, en tout cas, de nos maisons d'arrêt. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup de difficultés auxquelles les pensionnaires de ces maisons d'arrêt sont confrontés. Et pour comprendre justement ce sujet, je vous propose cet élément réalisé par Marc-Anne Fofana.
La liberté est la règle, la détention l'exception. Mais ces principes semblent à l'inverse à la maison centrale d'arrêt de Bamako, selon la déclaration du président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. À l'occasion de la journée africaine de la détention provisoire, une équipe de la CNDH s'est rendue à la MCR de Bamako. Après un entretien avec l'administration pénitentiaire et une visite symbolique de quelques détenus, le président de la CNDH alerte sur la situation carcérale.
La situation de surpopulation carcérale est inquiétante. Et ça va de mal en pis. Et pour environ 3600 détenus, il se trouve que près de 3000 détenus sont dans une situation de détention provisoire, ce qui est vraiment un drame dans une situation d'état de droit dans un pays de démocratie. En plus de ça, nous avons constaté des cas de détention arbitraire, des situations de dépassement des délais légaux de détention.
À ce jour, 3590 personnes sont incarcérées à la prison centrale de Bamako, dont 2910 en détention préventive. Ainsi, plus de 81% des pensionnaires attendent d'être fixés sur leur sort. Cette situation préoccupe également l'administration pénitentiaire.
Et je pense que nous sommes en phase avec l'administration pénitentiaire qui souffre des mêmes abus. Notre rôle, de par la loi, c'est de faire des constats, c'est de faire des recommandations et d'adresser ces recommandations aux autorités compétentes pour que des mesures correctives soient prises. En plus de ça, essayer de sensibiliser les juges par rapport au discernement des mandats de dépôt. Rappelez toujours que dans notre code de procédure pénale, le principe est la liberté, la détention est l'exception.
Pour le président de la CNDH, ce principe est loin d'être une promotion de l'impunité.
Et on ne demande pas de ne pas poursuivre les gens, mais chaque fois que cela est possible sans détenir la personne, je pense que l'idéal c'est d'aller vers ces solutions et surtout les mesures alternatives à la détention.
En plus de la maison centrale d'arrêt, l'édition 2023 sera marquée par le monitoring des autres lieux de privation de liberté de Bamako. Pour le reste du pays, la CNDH veille quotidiennement sur les détentions à travers les mécanismes nationaux de prévention de la torture. Ces mécanismes travaillent à établir un dialogue constructif et permanent avec tous les acteurs concernés pour changer la donne. D'ici là, les détenus devront s'armer d'espoir et de foi.
Voilà, donc c'était un élément réalisé par Makan Fofana. Monsieur Païtao, vous venez de suivre en tout cas un élément qui a été en tout cas réalisé dans l'enceinte même de la maison d'arrêt de Bamako. Déjà un commentaire là-dessus.
Commentaire, c'est alarmant. C'est inquiétant. Et ça nous met dans un état souvent inexplicable. Parce que inexplicable en ce sens que la loi elle est claire. Je n'ai pas la prétention de faire un cours de droit à nos éminents juristes, mais on dit en la matière, quel qu'en soit le crime, le mandat de dépôt qui court un an. Ne peut être renouvelé que plus de deux fois. Donc ça veut dire que si on fait un petit calcul, pour la détention préventive, quel qu'en soit le crime, la personne ne doit pas faire plus de 3 ans en prison. Et voilà.
Sans être jugé.
C'est ce que dit la loi. Et maintenant, quand on prend l'administration pénitentiaire, on dit que pour être détenu quelque part, il faut ce qu'on appelle un papier d'écrou. Papier d'écrou, ça peut être un mandat de dépôt ou une ordonnance de prise de corps. Et si le mandat de dépôt court un an, est renouvelable 8 jours ouvrables avant l'expiration du mandat, et ce mandat ne peut être renouvelé que 2 fois, donc 3 ans. Donc, à tout bout de champ, et la détention préventive ne doit excéder 3 ans. Maintenant, ceci étant, et l'administration pénitentiaire, la question que je me pose, ils détiennent ces détenus au-delà des 3 ans, en vertu de quoi? C'est cette question que je me pose, souvent toute bête, parce que si, pour être détenu quelque part, il faut obligatoirement un papier d'écrou, et ce papier, on dit que ce papier ne peut dépasser 3 ans. Maintenant, au-delà des 3 ans, Et on maintient les gens en prison en vertu de quoi? Quelles sont les... Parce que c'est ça, en fait, là, parce que cette prison, la MCA à Bamako, nous aimons chaque fois accuser nos ex-colonisateurs de la France. On les traite de tout. voilà, donc la colonisation, il y a beaucoup d'observateurs qui vont jusqu'à demander à nos États d'attaquer la France pour, crimes contre l'humanité partout. Voilà. Mais, et pourtant, le colonisateur a construit cette prison pour 400 personnes. Le colonisateur qui nous a soumis à l'esclavage, qui nous a soumis à la torture, qui nous a soumis à tout. Sorte de pratique inhumaine. Il a construit ce prison pour 400 personnes. Nous détenons là-dedans près de 3600. La question. Et parmi ces 3600, il y a 80% qui attendent toujours leur jugement. Maintenant, la question que je me pose, mais rien qu'à apprendre cela, vraiment, c'est alarmant et il faut tout faire. Il faut tout faire pour que désormais,
Et il faut des solutions alternatives. On a dit qu'il faut sortir le mandat de dépôt systématique. Cela ne veut pas dire qu'il faut instaurer une culture d'impunité. Mais moi, je pense qu'il y a des infractions et on peut les régler sans détenir les personnes. Ils peuvent être poursuivis, mais pas en détention.
D'accord. Oui, rapidement, hein, M. Konaté, à travers cet élément, qu'est-ce que vous retenez ?
Je retiens qu'il y a pas mal de difficultés dans l'appareil juridique ou judiciaire malien. Et à un moment donné, l'État avait exprimé le besoin de pouvoir recruter pas mal de magistrats. Surtout les juges d'instruction, ce sont eux qui font pas mal de boulot en ce qui concerne les enquêtes. Quand on n'a pas assez d'éléments à ce niveau, ça pose problème. Ça peut nous amener, ça peut être une des raisons qui a mené pas mal de gens en détention, et le nombre de durées aussi. Parce que pour pouvoir mener, par exemple, la démarche, par exemple, des enquêtes, ça peut prendre du temps. Et si on n'a pas assez de juges d'instruction sur les différents dossiers, ça peut prendre autant de temps. Ça peut être une raison. La deuxième raison aussi, ça peut être la disparition d'éléments de preuve, ou soit, par exemple, les complices pouvoir faire supprimer les indices. Il y a tout ceci qui rentre dans le cadre. Et ce que je déplore, l'État en est le moins. Par exemple, ils peuvent, par exemple, dépasser, par exemple, ce qu'il a dit, les 3 ans. Mais, par exemple, une prison qui doit contenir, par exemple, 400 personnes, s'il faut, par exemple, jusqu'à près de 3600, il faut voir ces gens-là. Imaginez, les gens qui se trouvent à l'intérieur vivent le calvaire. Or, dans la notion de droit de l'homme, on doit quand même aussi, même si on est incarcéré, il y a des principes standardistes internationaux qu'on doit respecter quand même. Quand on pense par exemple à Guy Bouvaré, ils sont allés en route, ils sont partis à l'occasion de la commémoration de la journée africaine des détentions provisoires, qui sont partis voir comment les gens se comportent au niveau de la prison. C'est tout à fait normal qu'ils essaient de tirer la sonnette d'alarme pour voir ce qui se passe. Ils sont dans leur rôle. Mais toujours est-il que l'État doit... Parce qu'on nous a parlé de Konyoroba. Je ne sais pas ce qu'on a fait de cette prison.
On le dit chantier est toujours en cours.
Voilà.
Parce bon. Que c'est fini, je pense pas. Que,
ah, bon, à un moment donné, selon les informations que nous avons reçues, on nous a fait savoir que c'est opérationnel. Ah,
d'accord.
Jusqu'à la date où je vous parle, je n'ai pas quand même écho de cela que le chantier est en cours. On nous a fait savoir que c'est... Maintenant, on peut amener les gens là-bas. Je ne sais pas ce qui en est de cela. D'accord. Donc, chaque fois, on amène les gens. Il a laissé quelques éléments dont j'apprécie beaucoup. Souvent, je pense, je ne me fais pas la prétention, je n'ai pas étudié le droit. Je n'ai pas étudié le droit. Mais ça, c'est ma propre analyse. Je pense qu'il y a certaines personnes, on peut les laisser en liberté. En liberté.
Oui, surtout que le président, hein, Guy Bouvaré, dans son message, parlait de détention arbitraire, du dépassement d'arrêt pour certains. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter quand il y a des détentions arbitraires et qu'il y a des gens qui seraient toujours détenus, dont le délai serait dépassé, monsieur Konaté ?
Bon, comme je vous ai si bien dit, c'est lui qui le dit. Ils sont dans leur rôle. Ils sont en train de veiller sur le respect des droits de l'homme. Mais l'État aussi, nous sommes dans une situation exceptionnelle, très exceptionnelle, une situation de crise multidimensionnelle. On peut arrêter les gens auxquels on les suspecte. On les suspecte. Certainement, eux, ils peuvent voir de ce côté-là, c'est des détentions arbitraires, patati patata. Donc là, dans ces cas, ils sont dans leur rôle. L'État aussi, en ce qui concerne la situation actuelle, les libertés sont restreintes. Si on est dans une situation exceptionnelle, c'est très difficile que les libertés soient comme si on est dans une situation normale. Okay. Là, dans ces cas, il y a pas mal de choses qui se passent. Et certainement, c'est ce qui peut amener le nombre de personnes en incarcération. Mmh. En incarcération, ça peut être, par exemple, les suspects en termes de terrorisme ou djihadisme qui se passent dans notre pays. Pas mal de gens qui sont détenus. Je pense que ça ne peut pas être des situations normales où on se trouve en ville, quelqu'un m'a volé ou bien soit il a refusé de payer tel ou tel truc. Okay. Je ne pense pas que le nombre... Je n'ai pas été là-bas pour déchiffrer, mais je sais que le nombre de personnes qui se trouvent en prison actuellement, ça aussi, ça fait partie. Les raisons auxquelles je viens de vous évoquer, ça fait partie. Donc, je pense que l'État doit voir pour pouvoir créer... Parce que j'étais à Bolé contre comparativement à Bolé, là-bas quand même, je pense que c'est bon. J'étais à Bolé, j'ai vu...
Une prison, mon frère, ce n'est jamais bon.
Non, quand je dis que c'est bon...
La condition de détention...
La condition de détention, c'est ce que je parle.
Okay. Voilà, la situation acceptable.
Voilà, la situation acceptable. Sinon, d'être en prison, ça n'aurait jamais...
Ça jamais été bon.
Moi, aujourd'hui, je peux aller là où je veux maintenant. D'accord. Mais si la liberté de voie vient, on vous prive de ça. Ah là, dans ce cas, ce n'est pas bon. D'accord. Mais les conditions de détention, je parle de ça, M. Travail.
La précision, elle est quand même importante.
Voilà, la précision, elle est très importante.
La précision n'a jamais été bonne, en tout cas. Alors, M. Faitao, nous sommes à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'on finisse, comme l'a si bien dit Agui Boiré, avec ces détentions arbitraires, et que si on reproche des choses aux gens, qu'ils soient jugés, pour qu'on chasse réellement l'issue qui les attend, et puis après, voilà, qu'on aille à autre chose rapidement, M. Faitao.
Bon, et pour moi, qu'est-ce qu'il faut, c'est très simple. Et que chacun prenne ses responsabilités. L'administration pénitentiaire, au dépassement du délai, doit dire, en tandem avec les magistrats, dire que si quelqu'un est en dépassement de délai de détention préventive, nous, on ne peut pas le garder. Parce que rien, nous, on n'a aucun élément pour le garder. Nous n'avons aucun moyen pour le garder. Au-delà de 3 ans, ça va permettre de mettre plus de pression sur les juges d'instruction, comme il a dit, mais le juge d'instruction n'a pas un délai indéfini.
Mais le juge n'est soumis à aucune pression, M. Faitao.
Oui, mais non. Et ça, je crois que ça, c'est un élément, parce que M. X est en prison. Moi, je suis chargé de l'instruction du dossier. On me dit qu'au bout de 3 ans, ils vont me le ramener, parce que ceux qui sont chargés de le garder me disent qu'au-delà de 3 ans, ils ne peuvent pas le garder. Parce que au-delà de 3 ans, et il n'y a pas de détention légale. Il y a pas nous n'avons plus le droit de le garder sans qu'il soit jugé. Maintenant, que chacun fasse son travail.
D'accord.
L'administration pénitentiaire dit, bon, nous ne pouvons pas prendre quelqu'un sans papier d'écrou. Et une fois que le papier d'écrou est dépassé, ça peut être le mandat de dépôt, soit l'ordonnance de prise de corps, une fois que c'est dépassé, maintenant, nous, on ramène... Et le détenu en question et au magistrat qui l'a mis en prison.
D'accord.
Parce que on veut quoi, même pour les crimes ou encore les délits, il y a un temps de prescription pour ça.
D'accord.
Mais on dit quelqu'un qui est en prison, il n'y a pas de limite pour sa détention préventive. Mais
d'accord.
Finalement, moi, je ne comprends pas. C'est là que chacun reste dans son rôle,
chacun fasse son travail. Voilà. Okay. Rapidement, en 30 secondes, monsieur Konaté, on a fini.
Ben justement, j'aborde dans le même sens que lui. Effectivement, si par exemple, il y a un vide juridique qui est là, si les 3 ans sont dépassés, les magistrats quand même, ou soit le juge qui est en charge de cela, doit soit libérer la personne, ou soit... ben voilà, parce que le dossier est vide.
D'accord.
Est vide.
Okay.
Est vide. Okay. Je pense que.
Non,
voilà.
Pas le dossier est vide, hein.
Non,
mais quand même, on doit chercher une formule à l'expiration du délai.
D'accord.
Soit on libère la personne en attendant de terminer l'instruction, soit on le juge.
D'accord.
Quand je dis que le dossier est vide, c'est par rapport au délai.
C'est par rapport au délai. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que je suis avec M. Boakar Faitao, journaliste. Ce fut un plaisir, Faitao. Hein.
Le plaisir est
notre second invité était M. Moussa Konaté, journaliste également. Ce fut un plaisir, M. Konaté.
Merci
de nous avoir suivis. Et bonne suite de programmes en compagnie de nos programmes. Et allez à dimanche prochain dans votre émission, le QG de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et bonne chose. Merci.